fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Sandra Millot.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Il fait quoi ? Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la prise en charge de la santé mentale des jeunes par les institutions de l'enseignement secondaire et du supérieur. Nous accueillerons pour cela Marie Lauricella, médiatrice scientifique au sein de l'équipe Veille et Analyse de l'IFE, suite à la sortie de son dossier de veille intitulé « Souffrance adolescente, quand la santé mentale dépasse les frontières de l'éducation ». Elle discutera avec Caroline Combes, médecin directrice du service de santé étudiant de l'ENS de Lyon, et Corinne Cesson, CPE au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains. Puis Sébastien Boudin, qui a plus d'un tour dans son sac, nous emmènera du côté de Rouen à la rencontre d'un mathémagicien. Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo, qui a fouillé le fonds patrimonial de la bibliothèque Diderot de Lyon à la recherche d'ouvrages évoquant la santé mentale des jeunes au XIXe siècle. Bonjour Claire.
Bonjour Sandra. Alors le terme de santé mentale, on s'en doute, n'existe pas et du coup la notion était un peu plus difficile à cerner. Il n'y a pas d'écrit spécifique ou identifiable évidemment avec ce type de mot. Et d'ailleurs, à la bibliothèque, aucun ouvrage ne va avoir un titre avec les mots santé mentale avant 1951. Donc j'en ai quand même choisi deux pour vous en apporter pas plus, mais en fait j'aurais pu en prendre davantage. J'ai tourné autour des thèmes qui pouvaient être un petit peu voisins, et puis en ayant feuilleté quelques-uns, c'est le thème de l'hygiène et, curieusement, le thème de la gymnastique. Donc je vous ai pris un ouvrage de Riant qui s'appelle « Hygiène scolaire, influence de l'école sur la santé des enfants », qui date de 1878. Et j'en ai pris un autre dont le titre m'a attiré. C'était « La santé de l'esprit et du corps par la gymnastique » d'Eugène Paz, qui date, lui, de 1865.
Mais alors, de quelle manière cette notion était-elle évoquée, si tant est qu'elle l'était ?
Alors, elle ne l'était pas en tant que telle, comme j'ai dit, mais il ne faudrait pas croire que l'on ne se préoccupait pas de la santé ou du bien-être des élèves. Mais c'est d'une certaine façon diffuse et sans que ce soit mis en valeur en tant que telle. En quelque sorte, c'est comme si on tournait autour de cette notion parfois, mais sans l'isoler. Après, il ne faut pas oublier que c'est une époque où la psychologie est très débutante, la psychanalyse, etc. Donc... voilà, c'est assez normal. Donc, il y a un certain nombre de romans, de fictions, hein, qui vont évoquer ces élèves à la fois chétifs, faibles, mélancoliques, soit que ce soit pour regretter cet état de fait, soit que ce soit un petit peu pour s'en moquer, ou les deux. Je pense par exemple à André Lory, à Rodolphe Töpfer, à Jules Renard. Mais toujours, ces deux santés, c'est-à-dire la santé physique et la santé mentale, sont en quelque sorte mélangées. Dans « La santé de l'esprit et du corps par la gymnastique » d'Eugène Paz, par exemple, il va évoquer, tout à fait dans des mêmes phrases, la langueur, la faiblesse chez les adolescents, par exemple, quand il dit « que d'adolescents malingres, nonchalants, lymphatiques ». Donc on voit qu'on passe sans transition de la santé physique à des santé peut-être plus mentales. Mmh. Un petit peu plus loin, « le plus beau patrimoine qu'un père puisse léguer à ses enfants, c'est un cerveau calme et puissant, qu'aucune habitude funeste, qu'aucune excitation anormale n'aura corrodé ou flétri ». D'autres auteurs déplorent que l'éducation n'essaye pas de créer des tempéraments et des intelligences robustes. Donc là encore, toujours à cette frontière entre physique et mental.
Mais alors, quels étaient les remèdes à cette langueur, cette nonchalance ou cette mélancolie que l'on proposait aux jeunes gens à l'époque ?
Alors, ça dépend, mais on peut voir parfois des sortes de remèdes. Par exemple, chez Eugène Paz et d'autres auteurs du même type, c'est très clairement la gymnastique, le mouvement. Malheur à l'élève qui ne fait pas de mouvement. Et là, je cite, « son énergie enchaînée deviendra fièvre, douleur, au pluriel, hypochondrie, marasme, désespoir, quelquefois suicide ». Donc on est bien dans une problématique de santé mentale, mais elle se résout par le mouvement, la gymnastique dans son ensemble. C'est encore plus recommandé pour les élèves citadins qui ont une vie trop immobile. Donc on va rejoindre finalement quelque chose de très classique qui était le Mens sana in corpore sano. Dans cet ouvrage de Eugène Paz, par exemple, il va s'appuyer sur des exemples historiques, il va passer toutes les nations en revue de tous les temps pour montrer combien finalement celles qui pratiquaient la gymnastique, le mouvement d'une façon ou d'une autre, sont les meilleures, les plus robustes. Et sous-entendu, comme si dans ces nations-là, tout le monde allait bien. Donc, il va y avoir, si on le transpose pour l'école, c'est quelqu'un qui va défendre la longueur des récréations, des promenades, et surtout la mise en place de l'éducation physique tout au long de l'éducation scolaire.
Et ça, c'est une intuition qui semble se confirmer de nos jours.
L'activité physique régulière n'est pas seulement bonne pour le corps. Elle a aussi un impact positif sur plusieurs aspects de la santé mentale. D'abord, elle déclenche la sécrétion d'hormones qui ont des effets bénéfiques sur le bien-être psychologique. Ces substances ont une influence apaisante sur l'humeur parce qu'elles augmentent la sensation de plaisir et réduisent le stress et l'anxiété. L'activité physique aide aussi à prévenir la fatigue mentale parce qu'elle élimine les tensions et facilite le sommeil. Comme elle canalise notre attention, l'activité physique favorise aussi l'interruption des pensées négatives associées au stress, à l'anxiété et à la dépression. Autrement dit, elle nous incite à être dans le moment présent.
Oui, bah, d'une certaine façon, on peut dire qu'empiriquement, on avait déjà ressenti à l'époque les besoins du mouvement et de l'éducation physique.
Mmh. En introduction à votre chronique, vous aviez parlé de l'hygiène. Alors, en quoi cette notion était-elle importante à l'époque ?
L'hygiène, ça va être un souci permanent de l'école de la fin du 19e siècle. On se rend compte que la santé, c'est pas seulement ne pas être malade, mais qu'elle est aussi, je cite, une source de bien-être. Ça, c'est un terme qui est très souvent employé. Donc, il va y avoir beaucoup de livres qui parlent de l'hygiène scolaire, avec une attention spécifique qui va être portée à l'emplacement des écoles, à la disposition des bâtiments, à l'agencement des classes. Il y a des pages et des pages sur les poêles et les moyens de chauffage, ou bien sur le mobilier scolaire, parce que l'école a une influence sur les élèves. Elle doit être agréable, elle doit les attirer, mais en fait, curieusement, il n'est jamais explicitement parlé de... Enfin, d'aller jusqu'au point de parler de bien-être ou de santé mentale. Mmh. Mais on sent quand même que mieux l'école est agencée, plus les élèves s'y trouveront bien. Mais en fait, on frôle la notion sans la développer. Mmh. Parfois, le bien-être aussi, paradoxalement, il est évoqué par ses contraires. Par exemple, lorsqu'il n'est pas respecté. Si on ne donne pas des récréations assez longues à des enfants, ou bien si on admet dans les classes des enfants qui sont trop petits, ou si les classes sont trop nombreuses, eh bien, par conséquent, les enfants ne seront pas bien. Et on peut penser qu'il ne s'agit pas seulement de pas bien physiquement. Mais là encore, c'est juste suggéré, mais sans plus. Et finalement, donc, la santé à cette époque-là, c'est quand même essentiellement la santé physique. En tout cas, c'est ça qui est développé. Parce que très rapidement, dans ce genre d'ouvrage, on repart sur les vaccinations, les repas, la propreté, finalement des choses très concrètes. Il y a finalement également plus d'attention qui est portée à la moralité qu'à la santé mentale. Parfois, c'est lié, c'est-à-dire si on a une bonne moralité et une bonne hygiène, eh bien forcément, on se sent bien d'une certaine façon. Mais le terme mental, encore une fois, n'est pas employé. Et là, dans les ouvrages sur l'hygiène, en fait, on rejoint ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que c'est très souvent, il y a de longs passages sur les exercices physiques, sur la gymnastique, et là, de nouveau, ce sont eux, hein, les exercices physiques, qui, je cite, « préviennent la stagnation des humeurs, le gonflement des glandes chez l'enfant lymphatique, diminuent chez l'élève trop nerveux une impressionnabilité dangereuse pour le physique comme pour le moral ». Etc, etc. Je ne vais pas vous faire un florilège de citations, mais en fait, voilà, toujours cette notion abordée sans être explicitée.
Le message est assez clair. Eh bien, merci Claire pour cette chronique. Merci d'avoir fouillé le fonds patrimonial pour extraire quelques liens avec la santé mentale. Accueillons maintenant nos trois invités. Corinne Cesson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère principale d'éducation au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains. Caroline Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin directrice du service de santé étudiant ici à l'ENS de Lyon. Et Marie-Laurie Sella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice scientifique au sein de l'équipe veille et analyse de l'IFE. Alors merci à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation pour aborder un sujet qui préoccupe de plus en plus le milieu éducatif et pour cause. Les statistiques concernant la santé mentale des jeunes ne sont pas bonnes et à titre d'exemple, d'après Santé publique France, le nombre de jeunes de 18-24 ans concernés par une dépression est passé de 11,7% en 2017 à 20,8% en 2021. Et pour les jeunes de 17 ans concernés par des symptômes anxio-dépressifs sévères, la proportion est passée de 4,5% en 2017 à 9,5% en 2022. Il faut dire que l'accumulation des crises qui secouent notre époque, comme la crise climatique, les crises géopolitiques, économiques et dernièrement sanitaires, n'aident pas à réduire l'anxiété de nos jeunes générations. Mais ces crises sont-elles les seules causes de l'augmentation du mal-être chez nos jeunes? Et les institutions scolaires et universitaires n'ont-elles pas des leviers d'action pour à la fois prévenir, repérer et accompagner ces situations? Alors, le dossier porte sur les interactions entre souffrance adolescente et parcours scolaire. Et dans cette émission, nous allons profiter de la présence de nos invités pour comprendre comment les institutions d'enseignement au niveau secondaire et supérieur prennent en charge la santé mentale des élèves et des étudiants. Mais tout d'abord, il semble important d'apporter quelques précisions sur la définition du concept de santé mentale. Qu'est-ce que cela recouvre et quelle différence y a-t-il avec la notion de bien-être ? Marie-Laurie Sella ?
En fait, c'est devenu une expression qui est assez courante, le terme de santé mentale, qui a été fortement employé dans les médias, notamment au moment de la crise sanitaire, quand il s'agissait de parler de la santé justement des jeunes, en collège, lycée ou enseignement supérieur. Mais c'est une définition qui fait débat, dont les contours sont parfois flous. Et au sein de la recherche en psychologie, d'ailleurs, on trouve plusieurs définitions de la santé mentale. Alors moi, j'en ai retenu une qui me semble intéressante, parce qu'elle elle couvre un large spectre. C'est une définition qui a été développée par Coves et Masfeti, qui est un professeur en psychiatrie, et qui finalement définit la santé mentale comme un continuum composé de deux pôles, un pôle de la santé mentale positive et un pôle de la santé mentale négative. Donc, et puis, entre ces deux pôles, il y a un continuum, finalement, de sentiments, de sensations, d'états de bien-être ou de mal-être. Alors, côté santé mentale positive, c'est fortement relié au sentiment de bien-être. Donc, c'est une capacité à se saisir, finalement, et à affronter tous les événements et tous les éléments de la vie courante. Et l'autre versant, la santé mentale dite négative, évidemment, est associée à la notion de mal-être et recouvre des troubles assez divers, allant de l'anxiété, la déprime, ou voire même la dépression majeure. C'est une notion qui est aussi appliquée d'une façon un petit peu différente lorsqu'on aborde la santé mentale des enfants et des adolescents. Et l'OMS a permis, en fait, de définir dans une perspective développementale ce qu'est une santé mentale positive pour les enfants et pour les adolescents. Ça recouvre différents éléments. Le premier, c'est d'avoir un sentiment d'identité positive. Le second, c'est d'être en capacité à gérer ses pensées, ses émotions. Le troisième élément consiste à être en capacité de construire des relations sociales qui sont épanouissantes, enrichissantes. Et enfin, le dernier, évidemment, et là qui nous concerne directement, c'est être capable d'apprendre et d'acquérir une éducation.
Caroline Combe ?
On peut être dans un bon état de santé mentale et avoir une pathologie psychiatrique et ne pas avoir de pathologie psychiatrique et avoir un mauvais état de santé mentale. Donc en fait, on oscille dans ce continuum de santé mentale, aussi bien dans la journée, dans l'année ou dans une vie entière, avec parfois des pathologies. Mais en effet, la pathologie psychiatrique qu'on galvaude avec le mot santé mentale n'est pas forcément synonyme de mal-être en santé mentale ou de bien-être en santé mentale.
J'avais jamais été dans une situation comme ça et avec des pensées comme ça, non, c'est pas moi.
Seul dans 20 mètres carrés.
Je n'ai jamais eu autant eu la boule au ventre.
Pour moi, la fac, c'était la promesse de liberté.
On ne devrait pas paniquer autant.
Je suis enfermée chez moi, attachée à un ordinateur. Je révise comme je peux, entre les crises de larmes.
J'ai abandonné ma famille pour vivre, pour avancer, et me voilà coincée chez moi avec mes démons.
On vient d'écouter ce petit extrait d'un reportage de France 3 Hauts-de-France sur la santé mentale des étudiants après le Covid, qui met en écho plusieurs témoignages du mal-être des étudiants à la sortie du confinement. Alors plus globalement, Marie-Laurie Sella, quel constat fait-on de la santé mentale des jeunes au sein des établissements, alors du secondaire et du supérieur, là on vient d'écouter des étudiants, et comment se manifeste cette détresse psychologique des jeunes selon qu'ils sont au collège, au lycée ou dans le supérieur ?
En fait, ce témoignage, il est assez représentatif du constat posé par les rapports institutionnels et puis la recherche sur ces questions de santé mentale des jeunes. On observe qu'elle s'est dégradée dans le temps, connaissant un pic de dégradation véritablement au moment de la crise sanitaire en 2020-2021. Alors, selon les niveaux scolaires, en fait, on observe une augmentation de ce mal-être au cours de la scolarité, notamment dans le secondaire, de la 6e à la terminale. Et c'est plutôt bien documenté. En France, il y a des enquêtes très intéressantes et robustes, notamment, je pense à une enquête qui s'appelle « En classe », qui a été menée dans les années 2020. Et parmi ces résultats, donc, on constate une augmentation des symptômes de déprime tout au long du secondaire, et en particulier au cours des années collège. Notamment, 45,1% des élèves de 6e déclarent s'être sentis déprimés une fois par mois, voire tous les jours, contre 53,3% en 3e, donc, selon leur déclaration, évidemment. Ça se manifeste par un manque d'énergie, des difficultés à réfléchir, à se concentrer et un sentiment de découragement qui peut être ponctuel, voire plus durable dans le temps. Ça augmente au cours également du lycée. 36% des lycéens sont concernés par un risque de dépression. Alors, pas forcément par une dépression, mais un risque de dépression. On parlera, je crois, après des facteurs. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que, selon leur déclaration, plus d'un lycéen ou d'une lycéenne sur 10 déclare avoir tenté de se suicider au cours de sa vie. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Même si, dans l'ensemble, il faut le rappeler, c'est que, globalement, collégiens comme lycéens se déclarent aller bien. Hein. Plus dans la grande majorité, je pense que c'est quand même un préalable quand on parle de cette question de la santé mentale. La question de la santé mentale dans l'enseignement supérieur, elle a été abordée, il me semble, d'une façon plus durable dans le temps, c'est-à-dire que dès les années 1990, on a pris conscience de la vulnérabilité en fait, de cette population, en raison notamment de la pression qui pèse sur eux pour la réussite dans l'enseignement supérieur, les questionnements autour des choix d'orientation, qui sont assez impactants sur la santé mentale, les perspectives d'entrée sur le marché du travail. Donc on sait dès les années 90 que c'est une population entre guillemets, à surveiller sur ces questions psychologiques-là. Et puis, il y a une enquête très, très récente et qui se renouvelle périodiquement, qui est l'enquête sur la santé des étudiants, qui fait état d'un étudiant ou d'une étudiante sur cinq qui présente des signes d'une détresse psychologique de nature anxio-dépressive. Donc, on est sur des chiffres quand même assez élevés. Avec notamment un pourcentage également assez élevé, 9 à 15% des étudiants qui présentent des idéations suicidaires. Donc, ça veut dire simplement des idées et... Parmi ceux-là, 5% passent à l'acte. Donc ça reste des chiffres assez inquiétants et qui sont renouvelés d'une façon périodique. Et on connaît évidemment un pic de cette détresse psychologique au moment de la crise sanitaire.
Corinne Cesson, est-ce que ce qui est décrit ici par Marie-Laurie Sella correspond à ce que vous constatez, vous, dans votre établissement scolaire ?
Alors, oui, depuis effectivement 4-5 ans, hein, donc là, je pense que la crise sanitaire y est pour quelque chose. Nous travaillons avec un groupe de prévention du décrochage scolaire, avec une infirmière scolaire, une psychologue de l'éducation nationale. Et toutes les semaines, on se réunit et on a pu effectivement constater depuis 4-5 ans vraiment une augmentation parmi le décrochage scolaire des situations d'élèves qui sont fragiles psychologiquement. Donc c'est variable, hein, ça peut aller vraiment d'un retrait de l'école temporaire avec des maux de ventre, etc. Mais ça peut très vite s'aggraver avec une vraie phobie scolaire. Et puis ce que l'on note, ce sont effectivement des troubles anxio-dépressifs, beaucoup de somatisation de la part des élèves au quotidien aussi, hein, qui se rendent à l'infirmerie. Et là, les chiffres sont en très forte hausse depuis 4-5 ans.
Et de votre côté, Caroline Combe, est-ce que c'est le même constat à l'ENS ?
Oui, je travaille dans le monde de l'université de l'enseignement supérieur depuis 2008. Et jusqu'alors, on avait des motifs de consultation qui étaient de l'ordre de la santé physique, santé mentale et santé vie affective et sexuelle. Quelques questions sur les addictions. Et là, c'est vrai que 90% de mes consultations sont des motifs concernant la santé mentale. Avec bien sûr des pics concernant les troubles anxio-dépressifs, des gestions de crise en effet avec des crises suicidaires. Et quelque chose que j'ai vu apparaître, en tout cas cette année, qui est du coup la majoration de ces troubles chez les personnes neuroatypiques, qui est un public, entre guillemets, qui n'est pas identifié, puisque, en tout cas, moi, dans mes études de médecine, on ne me l'a pas enseigné. Mmh. Et on a une génération et d'enseignants et de jeunes adultes non diagnostiqués qui ont des traits caractéristiques en lien avec ce qu'on appelle un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, mais qui peut les mettre en grande vulnérabilité dans cette période de vie 18-25 et aggraver l'anxiété, la dépression. Et à l'ENS, j'ai l'impression qu'on est face à ce profil de public.
Et alors, quelles sont les raisons qui sont identifiées de cette augmentation de la détérioration de la santé mentale des élèves et des étudiants ? On parlait en introduction des différentes crises auxquelles nous sommes confrontés, mais au sein des établissements d'enseignement, n'existe-t-il pas aussi des facteurs aggravants ? Marie-Laurie, c'est là.
Ce qui revient fréquemment, en fait, dans l'ensemble des recherches, à la fois qui portent sur les établissements d'enseignement secondaire comme supérieur, il y a trois facteurs, on va dire, de risque qui ne sont pas forcément corrélés avec notre contexte. Le premier facteur, c'est le facteur de genre. Les filles et les jeunes femmes sont particulièrement touchées par des troubles anxio-dépressifs, bien plus que les jeunes garçons. Alors, plusieurs hypothèses sont formulées sur cette surreprésentation des femmes dans les troubles psychiques. Des hypothèses d'ordre biologique qui sont de plus en plus écartées, et des hypothèses notamment sur la complexité des rôles sociaux féminins, sur une majeure exposition à des formes d'agression et notamment des agressions sexuelles, et enfin une plus forte pression pour la réussite scolaire à leur endroit. Voilà. Deuxième facteur qui est récurrent, toute classe d'âge confondue, tout niveau scolaire évidemment, c'est l'origine socio-économique défavorisée des familles. Ça implique évidemment beaucoup de choses dans la vie privée, peut-être des précarités dans le logement, être face à la précarité économique et au chômage de ses parents. Ça pose également énormément de problèmes et puis, on va dire, une incertitude aggravée et renforcée concernant l'avenir. Et quand on est étudiant, ça pose des problèmes également fortement pragmatiques, tout simplement problème de logement, être contraint de travailler en parallèle de ses études, ce qui implique également un emploi du temps très chargé. Des difficultés à mener en parallèle à une activité professionnelle et une activité universitaire. Et puis, ce qu'on note également, c'est que, et notamment ça a été le cas pendant la crise sanitaire, c'est une majoration des recours à l'aide d'urgence, et d'aide d'urgence notamment alimentaire, ce qui impacte énormément la santé mentale des étudiants et des jeunes qui sont confrontés à ces situations de grande précarité. Et enfin, le troisième facteur, que je trouve très intéressant quand on met en parallèle santé mentale et éducation, c'est le rôle des filières. Alors, il y a un blanc sur la question des filières du lycée, c'est-à-dire qu'on ignore, enfin, en tout cas, c'est une piste de recherche qui serait à creuser, de mener notamment une enquête comparative sur les niveaux de stress, d'anxiété scolaire, ou voire même d'épuisement des élèves selon les filières professionnelles, générales ou technologiques. Ça, on ignore s'il y a un impact. On le suppose, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de données tangibles. Mais par contre, sur l'enseignement supérieur, c'est plutôt bien documenté. On note notamment une surreprésentation des troubles anxio-dépressifs chez les étudiants en sciences humaines et sociales. On peut faire l'hypothèse que c'est fortement lié à des inquiétudes quant à leur insertion sur le marché du travail. Et puis, autre catégorie qui est fortement impactée par ces troubles anxio-dépressifs, ce sont les étudiants, notamment en filière santé. Du fait de la difficulté des parcours, de la forte pression au concours, de devoir gérer à la fois études et puis des stages qui sont souvent fortement éprouvants psychologiquement quand on entre sur ce marché de travail très, très particulier. Et puis, autre formation fortement impactée par ces troubles en santé mentale, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles, un petit peu pour les mêmes raisons que les filières santé, c'est-à-dire une forte pression sur la réussite scolaire, un usage intensif également du temps, qui en fait rompt un petit peu avec une image de la jeunesse qu'on a couramment, c'est-à-dire c'est une imposition à un ascétisme qui finalement contrevient à tout ce qu'on attend et tout ce que la jeunesse attend également de ces années-là. Donc voilà.
Pour revenir au lycée, Corinne Cesson, quels sont les facteurs, vous, que vous avez identifiés dans l'aggravation de la santé mentale des jeunes?
Alors, je voulais juste donner un petit peu mon point de vue par rapport à l'origine sociale des lycéens et le lien avec la santé psychique. Alors, nous sommes un lycée dont les élèves sont issus majoritairement de milieux favorisés, voire très favorisés. Donc, on va dire que ces élèves-là sont particulièrement impactés par les troubles, et y compris les élèves des filières technologiques. Donc, nous, on ne fait pas de distinguo entre la filière technologique et la filière générale. J'ai en tête plusieurs situations, effectivement, sur tous les élèves que nous suivons avec mes collègues du pôle médico-social. C'est vraiment toutes sortes d'élèves. Alors, je suis d'accord pour dire que les filles sont plus impactées, un petit peu plus impactées que les garçons. Pour revenir aux causes, nous, il y a une cause qui est quand même évidente chez les lycéens, qui a ajouté du stress ces dernières années, tout ce que l'on vient d'évoquer, c'est la réforme du baccalauréat. Donc cette réforme est entrée en vigueur en 2018, donc là on est à plus de 5 années. On a un petit peu de recul et effectivement, le lien est quand même évident. Dans la mesure où les lycéens avant passaient des épreuves terminales en terminale et qu'ils sont dorénavant depuis 5 ans donc évalués sur 2 années, l'année de première et l'année de terminale. Et c'est une évaluation qui est quotidienne, c'est ce que l'on appelle le contrôle continu, avec tout ce que là suppose d'évaluation et de notes. C'est-à-dire que maintenant, le lycéen, il est en permanence évalué, noté, tous les jours. Il y a des rendez-vous avec les contrôles. Et au final, donc, ce fameux contrôle continu, d'ailleurs, pèse dans la balance pour 40% dans l'obtention du baccalauréat. Donc, c'est quand même pas rien, et ça, sur 2 années. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc là, les élèves doivent maintenant concourir au quotidien pour obtenir ce bac. Et ça, ça a un impact énorme sur les élèves, et y compris sur les enseignants derrière qui galopent pour avoir des notes. À tous les niveaux, le stress a été induit par cette réforme du baccalauréat. Parcoursup, évidemment. Parcoursup est une angoisse et une grosse machine. Et ce que l'on peut dire, c'est que maintenant, l'entrée en master aussi procure à peu près le même effet, puisque j'ai encore vu aujourd'hui que les élèves qui entrent en master, les étudiants qui entrent en master, se retrouvent dans la même position que les élèves de terminale, hein, à postuler. Et ça génère beaucoup de stress aussi, hein, pour les élèves qui sortent de licence. Donc ce stress, il dure finalement de la première au master. C'est quelque chose qui accompagne les élèves et qui, effectivement, ne laisse pas de place on va dire, à une vie de lycéen plus heureuse, quelque part.
Caroline Combe, vous, à l'ENS, quels sont les facteurs que vous identifiez, vous, dans l'aggravation de cette situation ?
Alors, je pense que c'est vraiment multifactoriel. Des étudiants qui sont sur le site de Mono, qui est le pôle sciences, vont avoir des particularités, des singularités qui vont être différentes des étudiants qui sont sur le site de Descartes, qui sont plutôt des étudiants en sciences humaines. Et en effet, on peut identifier du mal-être qui peut être soit lié à leur trait commun, c'est-à-dire le fait d'être un jeune adulte, d'être confronté à toutes ces rencontres amicales, amoureuses, à se projeter dans une vie d'adulte, à avoir un métier, à gérer son budget, à gérer son alimentation, qui, c'est vrai, sont vertigineuses hein, quand on sort de chez ses parents et surtout quand on ne vit pas dans la ville dans laquelle on fait nos études. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de toute la France, en fait, à l'ENS. Et puis, on a cette particularité des hautes écoles, en fait, qui en fait sont exigeantes avec des professeurs qui viennent souvent du système et qui eux-mêmes ont un haut niveau d'exigence, qui parfois a du mal à évoluer avec la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont déjà pas les mêmes que ceux qui étaient au Covid, qui ne sont déjà pas les mêmes que ceux d'il y a 10 ans. Et peut-être qu'il y a une inadéquation entre ce que l'institution propose, qui peut être perçu comme anxiogène de par l'organisation des cours, de par le fait de ne pas respecter le temps de pause, le temps du repas, le temps du sport, le temps de juste souffler le soir alors qu'il y a une masse de travail à faire pour le lendemain, voire l'absence de congés alors qu'officiellement il y a des congés mais qui sont passés pour réviser. Comment identifier tous ces indicateurs ? Moi, pour avoir travaillé dans différentes universités et du coup maintenant dans une grande école, je vois bien que les étudiants ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre un coup de projecteur sur ces filières post-CPGE, un peu comme les étudiants en effet en médecine, où en effet, déjà les étudiants qui vont dans ces filières sont singuliers de par la charge de travail qui déjà sont capables d'endurer. Et après, c'est toute cette inadéquation entre les ressources qu'ils ont et en interne, de manière innée, par leur culture, leur histoire, ou justement l'absence de ces ressources, d'avoir été victime dans son enfance de carences affectives ou de traumas ou d'autres problématiques de santé, qui fait qu'ils deviennent vulnérables et face à un environnement qui, du coup, est un environnement qui met sous pression, à un certain moment, vont décompenser. Et ces décompensations, j'ai l'impression, dans les filières à haut niveau d'exigence, comme les étudiants en médecine ou les étudiants en prépa, il y a des traits communs et je suis d'accord pour peut-être commencer à faire des études en fait, et avoir des indicateurs et comparer ces populations, CPGE et après CPGE, aussi bien INSA, Centrale, étudiants en médecine versus les étudiants qui sont à l'ENS. Ce serait très intéressant.
Alors, on s'imagine que les institutions ne se sont pas arrêtées au constat des facteurs qui aggravent ces situations, mais commencent aussi à apporter des réponses. Alors, Corinne Cesson, vous, en lycée, quelles sont les réponses que l'on peut trouver ?
Alors, c'est compliqué, justement, parce que c'est un sujet, une problématique dont on commence à s'emparer. Donc, on n'a pas, pour l'instant, on a notre expérience de vécu au quotidien, c'est-à-dire qu'on accueille des familles souvent très désemparées, puisque ce sont des jeunes mineurs. Donc, lorsqu'on a un problème de décrochage en lien avec des troubles psy, on demande aux familles à rencontrer les familles, bien évidemment. Et c'est un accompagnement qui doit se faire dans un premier temps, parce que beaucoup de familles sont des jeunes qui ont 16 ans, 15, 16, 17 ans. Pour certains, sont des aînés d'une fratrie, donc les parents n'ont pas de recul, et qui se prennent en pleine face la détresse de leur enfant. Donc la première chose, c'est quand même un accompagnement que l'on fait du mieux qu'on peut, et essayer aussi de cerner au mieux, de repérer, et de faire entendre aux familles qu'il y a peut-être un problème qui va au-delà de la simple fatigue passagère ou de la simple démotivation passagère, parce que ce sont des jeunes qu'on accompagne, nous, quand même, de la seconde à la terminale pendant 3 ans, que l'on voit évoluer. Et on repère assez facilement quand même. Je peux dire que le repérage maintenant est assez facile pour repérer les élèves en situation de détresse. Mais pour chaque famille, c'est un accompagnement particulier. Et on fait vraiment avec les moyens que l'on a. Donc la plupart du temps, on propose aux familles de consulter, hein, d'aller voir un psychologue. Quand on est un petit peu plus inquiet, on ose prononcer le mot psychiatre, mais c'est ce que l'on peut dire aussi, c'est que ce sujet reste quand même relativement tabou pour les familles. Donc frontalement, on ne peut pas d'emblée, alors que nous, on est plusieurs à avoir le sentiment qu'on ne peut pas d'emblée dire « votre fils, votre fille fait une dépression », alors que beaucoup, beaucoup de dans le paraître du jeune nous laisse penser que on l'a vu avant, on le voit après, on l'a vu évoluer et on peut aussi tirer comme ça, de prime abord, quand même certaines conclusions. Donc l'accompagnement vise à orienter les familles en fait vers les spécialistes. Mais le problème numéro un est la disponibilité des spécialistes. Que ce soit des psychologues ou des psychiatres, c'est très très compliqué à l'heure actuelle. Donc il y a des structures publiques comme les CMP, les centres médico-psychologiques. Sur la région lyonnaise, il me semble qu'actuellement, l'attente est d'à peu près 3 mois. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça me semble être un minimum. Et même avec les familles aisées qui s'orienteraient plus facilement vers des séances de avec un psychologue, les psychologues sont là aussi débordés. Donc, on se retrouve avec ces jeunes qui parfois se mettent en retrait, loupent leur scolarité, faute d'accompagnement.
Et alors, Caroline Combe, à l'ENS et plus largement, en fait, au niveau des universités, il me semble que vous nous aviez parlé de la création des centres de santé mentale sur la ville de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Ah oui, ça, c'est l'innovation lyonnaise, en fait, à la sortie du Covid, mais même avant, en fait, avec les médecins directrices des services de santé de Lyon 2, de Lyon 3 et de la Cato, on avait constaté que déjà les motifs de consultation en 2016-2017 étaient principalement de la santé mentale. Nous, on avait la chance, en fait, dans nos établissements, d'avoir des services qui étaient organisés, des médecins, des psychos, parce que l'État, depuis maintenant au moins 20 ans, souhaite que les établissements d'enseignement supérieur puissent avoir des ressources pour les jeunes intramuros, parce qu'on sait que les jeunes renoncent aux soins par manque de temps, manque d'argent, et de par actuellement la difficulté d'accès à un médecin traitant, on y est. Mais on avait réalisé qu'il y avait plein d'établissements beaucoup plus petits qui n'avaient pas en fait ces structures-là. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne créerait pas un centre de santé mentale inter-établissement, donc ouvert au public étudiant à l'échelle de la métropole de Lyon ? Aussi Rouen, Bourg-en-Bresse, qui ont des antennes des établissements lyonnais là-bas, pour offrir des consultations de médecine générale orientée santé mentale, psycho, psychiatre, et des ateliers en fait, de gestion du stress, d'affirmation de soi, d'estime de soi, de régulation émotionnelle, en lien avec les acteurs du territoire, notamment les CMP, bien sûr, qui sont tous saturés actuellement, les psychiatres des hôpitaux psychiatriques, les urgences psychiatriques, parce qu'on sait que d'abord, si on dépiste tôt un jeune, on lui permet de rester dans les études, et ça évite le décrochage, par la mise en place de traitements adaptés. Et puis, on évite les décompensations avec des passages aux urgences qui peuvent être traumatiques. Quand un jeune de 16, 17, 18 ans, même 20 ans, va aux urgences psychiatriques et se retrouve avec un patient qui a une schizophrénie plus chronique et beaucoup plus bruyante, il peut très bien, lui et ses parents, dire « mais plus jamais, on y va et c'est pas pour moi ». Et donc, faire le contraire, empêcher d'aller vers le soin.
Marie-Laurie Sella, au cours de vos lectures, est-ce qu'il y a des pistes à envisager pour faire progresser la prise en compte de ces questions de la santé mentale ? On voit que dans le supérieur, les choses sont prises à bras-le-corps. Le secondaire a l'air d'être le parent pauvre de cette question-là. Donc, qu'est-ce que vous avez pu trouver, vous, dans vos lectures ?
Sur ces questions, les pays nordiques et les pays anglo-saxons sont véritablement en avance et à la pointe, notamment lorsqu'il s'agit d'articuler espace éducatif et puis santé mentale. Alors, il y a plusieurs programmes d'amélioration, de promotion de la santé mentale qu'on pourrait citer et qui sont déjà datés, en fait. Notamment en Australie, dès les années 1990, il y a eu une initiative nationale de promotion en santé mentale en milieu scolaire qui s'appelle Mind Matters, qui vise à former les enseignants et le personnel éducatif, justement, sur ces questions. Donc, savoir repérer et savoir accompagner un enfant ou un adolescent en souffrance. Et donc, ça passe par l'accompagnement des élèves à développer des compétences en matière de compréhension et de gestion émotionnelle, à savoir communiquer d'une façon efficacement ce que l'on ressent. Et enfin, à savoir gérer également son stress lorsqu'on est face à des épreuves, évidemment des épreuves essentiellement scolaires lorsqu'il s'agit, lorsqu'on parle des collèges et des lycées. Donc, ce sont des initiatives qui visent à à faire de la prévention, de la promotion de la santé mentale, plus que véritablement à prendre en aval, à guérir des pathologies naissantes. Il y a aussi tout un travail et toute une réflexion qui a été initiée, notamment aux États-Unis, au Québec. Les Québécois sont extrêmement précurseurs sur ces questions. Tout ce qui entoure notamment la question du climat scolaire, qui est véritablement importante lorsqu'il s'agit de faire de la promotion d'une bonne santé mentale, une santé mentale positive, et notamment sur des méthodes qui visent à construire un sentiment général de justice scolaire. C'est quelque chose qui ressort également fréquemment lorsqu'on aborde cette question de la promotion de la santé mentale. En classe, ça passe par le fait de favoriser des attitudes encourageantes au détriment de la punition. Ça passe également par le fait d'énoncer clairement des objectifs d'un enseignement et de son évaluation. Et enfin, par exemple, ajuster également la charge de travail. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, et aussi quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans la littérature anglo-saxonne, dans la prévention et notamment des violences inter-élèves ou des cas de harcèlement, c'est la question de la coopération dans le travail. C'est-à-dire que, alors, quand on aborde la question de la santé mentale, il y a aussi un paradoxe quand on est face à l'institution scolaire qui vise quand même la compétitivité, l'excellence, la performance. Quand on instaure un peu plus de travail collaboratif, c'est pas mettre un frein à la performance, mais en tout cas, ça permet de générer un climat scolaire qui est bien plus positif et notamment bien plus positif entre élèves. Et ça compte énormément également pour la promotion de la santé mentale. Et enfin, je terminerai là-dessus. Il y a de nombreux rapports, et notamment, je pense à un rapport, le rapport Moreau et Brisson, qui est paru en 2016, qui porte essentiellement sur les établissements d'enseignement secondaire, qui formule différentes recommandations, donc notamment renforcer l'attractivité des professions en santé dans les établissements d'enseignement secondaire, renforcer le contingent des infirmiers, des médecins qui sont en sous-effectif important dans ces établissements-là, et également la création d'un service de psychologie dans ces établissements entièrement dédié à la santé mentale des élèves. C'est un enjeu qui est important et un enjeu également de démocratisation de l'accès aux soins en santé mentale. Comme vous l'avez bien dit, il y a parfois un peu un tabou, notamment chez les générations un petit peu plus âgées, plus que chez les jeunes maintenant, d'accès aux soins en santé mentale, mais également ça représente un coût. Les soins psychologiques ne sont encore pas remboursés par la Sécurité sociale. L'enjeu, il est vraiment pluriel et il est pointé dans de nombreux rapports et de nombreux travaux de recherche.
Eh bien, on va s'arrêter sur ces recommandations, en espérant qu'elles soient entendues. Merci à toutes les trois pour cet échange qui était très riche autour de cette question dont on mesure vraiment l'urgence. Il est temps maintenant pour Sébastien Boudin de nous faire découvrir son nouveau coup de cœur EAC pour un mathémagicien normand. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sandra.
Aujourd'hui, vous nous proposez de nous téléporter du côté de Rouen, car pour cette étonnante chronique, vous allez faire apparaître un professeur de mathématiques passionné par la magie.
Effectivement, je vais vous dévoiler un secret. Yves Méret, professeur agrégé de mathématiques au lycée Blaise Pascal, est passionné depuis 20 ans par la magie. D'ailleurs, il utilise ses cartes clés pour enseigner à ses élèves de seconde une culture scientifique, comme faire la différence entre le web et Internet, connaître les rudiments du codage ou bien les secrets des adresses IP.
Et une adresse IP, quand on la regarde de plus près, en fait, c'est jamais qu'une écriture en binaire. Et donc, j'utilise l'écriture en binaire. J'apprends à mes élèves comment ce qu'on fait pour écrire un nombre en base 2. J'apprends quelques rudiments comme l'addition, etc. Et en magie, la base 2 vous permet de faire des tas de miracles. C'est pas les tours qui manquent, puisque en fait, le binaire, c'est des 0 et des 1. Donc, en filtrant premier état, deuxième état, on arrive à fabriquer des tas de situations très intéressantes. Alors, ça va du plus connu au moins connu. Le plus connu étant le fait de pouvoir retrouver l'âge d'une personne avec des cartons que l'on montre au spectateur.
Yves Méret combine ces deux passions. Il est mathémagicien. Dans ses tours, le magicien fait appel à des techniques et des théorèmes issus des mathématiques. Depuis la rentrée 2024, avec ses conférences spectacles, cerveau, mode d'emploi, il est labellisé Adage, la plateforme qui facilite la mise en place des projets artistiques et culturels par les ministères de l'Éducation nationale et de la culture. Ce qui lui permet de présenter des ateliers de magie dans les établissements scolaires.
C'est une certification qui permet d'intervenir dans les collèges et dans les lycées. Via ce qu'on appelle le Pass Culture Pro. En fait, chaque élève dispose, en étant dans un collège ou dans un lycée, d'une réserve d'argent que les enseignants peuvent utiliser à partir du moment où ils ont le catalogue. Alors, il y a des sorties très classiques, comme un cinéma ou une pièce de théâtre, Et puis il y a des choses un petit peu plus originales comme ce que je propose. Mais je peux aller des CMDE que j'ai pu faire pendant la semaine des maths via le réseau Canopée. Et puis je vais aussi développer des ateliers de maths et magie pour des élèves qui sont en bac plus 3 à l'INSA, donc déjà des élèves d'un certain niveau. Et on va explorer la maths et magie et voir comment on peut fabriquer des tours et comprendre les mathématiques qui se cachent derrière.
Le mathématicien réalise de véritables performances. Il peut ainsi mémoriser un jeu de cartes entier en 1 minute et 20 secondes et replacer les cartes parfaitement dans l'ordre. Yves Miret dévoile les secrets de ses performances et ainsi nous pouvons découvrir les formules mathématiques sous-jacentes qui rendent ses exploits possibles.
Quel que soit l'âge que vous avez, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, si je vous dis que je vais vous apprendre un tour de magie, vous allez vraiment porter une certaine attention parce que vous allez apprendre quelque chose et vous allez détenir un secret. Et ça, c'est cette super carotte qui fait que j'ai tout le monde avec moi parce qu'effectivement, on va apprendre quelque chose. Déjà, je commence par faire la démonstration. Puis après, on sort le microscope mathématique et on essaye de voir pourquoi ça marche, jusqu'où ça marche et est-ce qu'on peut pas améliorer les choses.
Merci Sébastien pour cette grande illusion. Fascinante chronique. Nous mettons le lien vers le site du mathématicien Yves Miret sur notre site web. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. À la réalisation, le magicien du montage aux manettes de cette émission, le prodigieux Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le dossier de veille Souffrance adolescente quand la santé mentale dépasse les frontières de l'éducation sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cadécole. À très vite.